Alors, Anne-Louise, elle a une approche de sociologue tout-terrain. Elle conçoit et anime des formations, des groupes d'analyse de pratiques dans les champs éducatifs, médico-social et socioculturel depuis une vingtaine d'années. Et elle a plus récemment écrit un livre sur le lien enfant-nature, quelque chose qu'elle dit comme étant nécessaire pour elle. Ce livre, vous le trouverez bien sûr à la librairie. Là. Cultiver la relation enfant-nature. Depuis toujours, Anne-Louise met les mains dans la terre, avec délice, conduisant bien sûr un travail personnel et animant depuis l'année dernière les petits ateliers auprès d'enfants de 5 à 10 ans, rejoignant ainsi tous les fils de son tissage, puisque organisé autour d'une proposition de, je cite, « glanage, empreinte du vivant et création céramique ». Anne-Louise, à toi la parole.
Merci Laura, qui m'a fait venir ici tandis que j'avais, m'étais promis que non, je ne viendrais pas. Mais elle a été si convaincante. Voilà, alors pourquoi j'avais dit que je ne viendrais pas et pourquoi sans doute je ne suis pas très, tranquille en fait, à l'idée de prendre la parole, parce que je vais aborder une matière qui est un peu fraîche pour moi, qui est même franchement en chantier. Voilà, que je soumets en fait pour la première fois en public. Donc, pour être plus concrète, Laura vient d'évoquer mon parcours, donc d'où je parle, puisque aujourd'hui chacun et chacune s'est situé. Donc, elle l'a très bien dit, hein, je navigue dans le champ de la formation des professionnels depuis une vingtaine d'années, donc des professionnels de tout poil. Avec quand même une forte présence parmi eux, et c'est surtout vis-à-vis d'eux que j'ai construit mon propos, une forte présence parmi eux de professionnels du champ socioculturel, des animateurs et animatrices du champ socioculturel. Voilà, donc pour des raisons diverses, et entre autres parce que j'ai moi-même une vieille histoire avec l'éducation populaire, puisque pendant une vingtaine d'années, j'ai animé des ateliers de terre dans des structures type MJC. Dans des jeunes et de la culture. Voilà, et donc dans ce parcours-là, j'ai toujours eu des activités militantes, maternelles aussi, j'ai trois garçons, personnelles, on est dans un jardin partagé depuis 20 ans avec mon conjoint, et militantes donc dans des assos d'éducation à l'environnement qui m'ont toujours amenée à bouquiner, à me sensibiliser, à rester un peu en vigilance sur ce qui se passait sur les questions écologiques. Et c'est fort de ces lectures, fort d'entretiens que j'ai eu envie d'avoir, et fort de ces expériences parfois donc militantes, bénévoles. Je fais notamment référence dans le livre à une petite activité jardinière que j'ai eue dans les écoles maternelles de mes enfants. C'est fort de tout ça que, effectivement, il s'est avéré pour moi nécessaire de commencer à écrire donc en 2018. Et puis une publication de ce bouquin en 2020, parce que j'ai eu l'impression que ce que j'avais sous les yeux avec mon troisième enfant, donc qui a aujourd'hui 8 ans, était bien différent de ce que j'avais vu, éprouvé, entendu 14 ans avant avec mon fils aîné, donc avec presque une génération d'écart. Et tout ça m'a sauté un peu à la figure parce que ça m'a permis de me rendre compte que in vivo, j'avais sous les yeux ce que Robert M. Pyle, on l'a beaucoup cité, nomme l'extinction de l'expérience de nature. Et très concrètement, j'ai vu des enfants avoir du mal à mettre les mains dans la terre, me dire que c'était sale, à n'avoir jamais eu l'occasion de toucher des graines, des semences, avant des ateliers de jardinage. Je précise quand même que j'habite pourtant dans un quartier plutôt doté de la ville de Lyon, doté au sens au moins culturel du terme, et doté aussi au sens d'espace vert. Donc malgré tout ça, j'ai eu besoin de comprendre ce qu'il en était de cet éloignement des enfants et de la nature, qui est bien sûr nommé, quantifié, etc. Vous savez donc, entre autres, 4 enfants sur 10 aujourd'hui en France ne sortent plus dehors les jours d'école. Ça, c'est une stat de l'INVES, l'Institut National de la Veille Sanitaire. Donc voilà, tout ça m'a amené à écrire et avoir envie de rassembler ce que je trouvais très éparse, très éparpillé sur ce thème, donc de ramasser tout ça dans le cadre d'un livre. Et puis, suite à ce livre, une partie de mon activité de formation s'est beaucoup orientée sur ce renforcement des liens en fond nature. Et au cours de ces formations, assez vite, il m'a été dit, Anne-Louise, c'est super, mais on aimerait que vous veniez avec nous en pratique, quoi. Et même que vous puissiez, pourquoi pas, partir avec les enfants, enfin en tout cas proposer quelque chose avec eux. Donc je me suis beaucoup posé la question de ma place en fait dans ce cadre-là. Et il m'est apparu après réflexion que mon média de toujours, la Terre, donc, était un média intéressant, je crois, en tout cas opportun pour emmener les adultes et emmener les enfants dans peut-être une sensibilisation à la matière, donnant en plus une opportunité de sortir dehors et de se confronter à tous les éléments, puisque dans l'activité de la céramique, hein, ce qu'on appelle aussi la poterie quand on est sur du tournage, on est, et c'est la particularité, avec les quatre éléments. On travaille la terre avec l'eau, elle sèche à l'air et on cuit donc au feu. Un feu qui est parfois un peu un feu électrique, hein, on est d'accord aujourd'hui, parce que nombre de fours de potiers sont en fait des fours électriques. Mais toute cette complétude m'a paru opportune pour proposer des temps avec les enfants, et c'est un peu cette matière fraîche là dont je voulais parler aujourd'hui avec vous, et dont je vais vous faire part un peu rapidement, et sur laquelle j'ai envie qu'on échange, hein, parce que tout ça est en cours d'expérimentation. Voilà, et donc je suis partie de ce constat d'un éloignement des enfants avec les formes du vivant, un constat qui moi m'a particulièrement touchée, puisque je suis moi-même fille de paysan, enfant du dehors. Donc je suis particulièrement sensible à la question de ce déracinement, hein, de cette tendance qu'ont aujourd'hui beaucoup d'enfants à grandir davantage dans les murs d'une chambre que dans l'espace de la rue, comme c'était peut-être encore le cas il y a une cinquantaine d'années en France, ou de l'espace du dehors, tout au moins. Et lorsque c'est un peu le cas, c'est bien souvent dans des espaces qui sont dédiés, qu'ils sont invités à jouer, donc dans des espaces dédiés, ils sont cantonnés même à jouer. Et des espaces dédiés, je ne vous refais pas le coup des aires de jeu, mais bien souvent pauvres en texture, en matière, en couleur. L'herbe est désormais synthétique, les revêtements anti-fractures prévalent, hein, dans la plupart de nos aires de jeu. Bien sûr, il y a des tendances qui évoluent, mais on est bien loin de l'expérimentation directe avec les éléments du vivant animés et inanimés dont on parle ici depuis deux jours. Donc, une difficulté dans nos quotidiens, ce qui est vrai pour nous et vrai aussi des enfants, d'être à l'écoute du monde, peut-être de plus en plus aussi une difficulté de savoir d'où viennent notamment la plupart de ce qui se trouve pourtant dans nos assiettes, que nous ne savons plus cultiver et dont nous dépendons pourtant. Un éloignement, donc, une amnésie environnementale, comme dit Peter Kahn, qui se double, je crois, et là je reprends les termes de Geneviève Prouveau, c'est une sociologue, qui écrit à ce propos, l'amnésie environnementale se double d'un effacement des gestes de base. C'est tout le drame de notre quotidienneté moderne. On ne perçoit plus ce dont on dépend profondément. Donc, une vie qui est de plus en plus amenée à être à l'intérieur et un effacement des gestes de base, je vais revenir dessus, puisque pour moi c'est capital dans le travail de la Terre. Donc, j'ai envie de citer à cet endroit-là Dominique Cottereau, qui nous dit « L'enfant qui grandit entre l'intérieur de son appartement et l'univers clos de l'école, cour carrée, asphaltée, mur bétonné, livres et voix, cahiers et tableaux en guise de résumé du monde, apprendra un langage sensible appauvri. La chose a été remplacée par le mot de la chose, l'organique par l'image de l'organique, le territoire par la carte, le concret par son abstraction. Tout cela vient, je crois, questionner l'offre éducative et la manière dont on occupe les enfants, dont on leur permet plus ou moins de trouver de la joie, de l'autonomie et de la reconnaissance. Avec des effets nombreux, je ne suis pas sûre que ce soit utile de les rapporter dans le détail, mais syndrome de manque de nature, il en a été question. Privation, je crois, aussi d'une partie essentielle du vécu infantile dans la rencontre avec toute cette richesse qu'offre le dehors. Privation du fait de pouvoir s'éprouver dans son corps au nom du risque, au nom d'une certaine idée de la sécurité. C'est pour moi un endroit essentiel parce que derrière ça, je pense qu'il y a aussi des enjeux de prévention. Comment apprendre à se protéger, si ce n'est en s'éprouvant, donc dans l'expérience. Et je pense donc qu'on a bien souvent encore tendance à confondre, j'ai envie de dire, la culture de la sécurité avec l'absence d'expérience au nom du risque. Peu de chance également pour ces enfants d'avoir envie de prendre soin de ce qu'ils n'auront pas rencontré, on se l'est dit aussi beaucoup. Il y a bien sûr donc des enjeux d'éco-citoyenneté, d'éco-formation, pour reprendre les termes qui ont été évoqués, dans ces formes d'éloignement. Tout ça est un mouvement long et insidieux dont les professionnels, en tout cas ceux que je croise, moi, pas forcément donc, du coup les enseignants, n'ont pas forcément conscience, car ils ne rencontrent pas forcément les enfants sur ce terrain-là, en fait, et pas plus que les enfants ne peuvent réclamer ce qu'ils ne connaissent pas. Donc ça se fait comme ça, à bas bruit. Et je crois que ça vient nous convoquer dans le fait de repenser notre capacité à nous réancrer. Réveiller nos appartenances, nos empreintes. Cultiver donc les formes possibles de résonance, comme nous invite à le faire Hartmut Rosa. Rahn a fait référence à cet auteur allemand, que j'aime beaucoup, et qui donc a écrit un livre qui s'appelle précisément Résonance, qui fait suite à un autre livre qui s'appelait Accélération. La résonance, nous dit l'auteur, se caractérise par deux mouvements complémentaires. D'un côté, une ouverture au monde, une capacité à se voir affecté par lui, et puis d'un autre côté, le pouvoir d'y agir, de reconnaître notre activité en lui. Donc, à l'opposé de cette relation résonante au monde, l'auteur décrit une relation qu'il qualifie de muette et froide, un monde donc réduit à ses qualités instrumentales, un monde qui nous sert. Ou une relation passive à un monde qui ne peut être que subi. La résonance, donc, se nourrit de la capacité à voir le monde de manière attrayante et répondante, d'une certaine manière. La résonance nous dit, donc, la nécessité de sentir que l'on puisse être en prise avec lui, être en prise avec le monde. Toucher terre. Être à l'écoute, à l'observation, être présent au monde. Merleau-Ponty disait habiter la chair du monde. J'aime bien cette expression. Alors ça passe bien sûr par des canaux multiples, et tant mieux, c'est son pluriel. Mais j'ai tendance à croire depuis ma petite lorgnette que le toucher, ce sens moins développé hein, avec le goût, c'est ce que nous rappelait aussi Christine Parton ce matin, j'ai tendance à croire que le toucher, le travail de la main, le rapport à la constructivité, à la matière, et donc aussi possiblement à la réparation, sont particulièrement puissants pour créer les conditions de cet accès. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'initier dans mes petits ateliers terre, dont je vais parler un petit peu plus. Ces petits ateliers terre, donc j'ai effectivement nommé atelier de glanage, empreinte du vivant et création céramique. Je vous en donne quelques idées, j'ai quelques images aussi. Sont pour moi l'occasion d'essayer de, j'allais dire, tout tenir ensemble, c'est là où c'est bien sûr trop ambitieux, mais de susciter des formes d'attention, de nourrir des égards au vivant, au milieu dans lequel sont les enfants, et à la matière également. Nourrir des égards pour contribuer à nourrir une sorte de mémoire sensitive de la matérialité du monde. Alors, plusieurs sortes d'ateliers sont possibles, j'anime plusieurs types d'ateliers, mais là, je vais rentrer un peu plus dans le descriptif de ce que je fais essentiellement, en tout cas ce par quoi j'arrive, ce avec quoi je commence, et qui donc peut servir d'entrée avec moi, avec d'autres, et si ce n'est pas avec moi et que c'est avec les animateurs, tant mieux. Je ne cherche pas à avoir forcément une présence durable, mais par contre, j'essaye d'initier autant que possible, on va dire, cette approche. Et j'essaye de mettre en œuvre, du coup, quand j'anime ces ateliers, ces temps toujours avec un professionnel au moins, de manière à ce qu'il puisse y avoir un relais. Et j'essaie de m'appliquer les éléments de posture et ou les prédispositions, ou dispositions plutôt, pas prédispositions, les dispositions, dont je parle ensuite en formation. Et sur lesquels je reviendrai donc après avoir mis un peu les mains dans la terre avec vous. Donc ces petits ateliers sont là pour développer donc une action sensible. J'arrivais tout à l'heure et j'entendais, mais c'est quoi en fait vraiment le sensible? Pour moi, le sensible, c'est, j'ai envie de dire, à la fois une invitation à l'émerveillement et puis une activation de la sensorialité. En tout cas, moi, je tiens ces deux dimensions-là ensemble, j'essaye de les tenir ensemble. Développer donc une action sensible qui, très concrètement, passe par les objectifs pédagogiques suivants. Toucher, ce qui n'est donc pas sale. Prélever et non piller. Observer. Entre autres, que tout se transforme et rien ne se perd dehors. Comprendre les cycles et les éléments. Se confronter à la résistance des matériaux. Et, en objectif opérationnel, vous l'avez compris, il s'agit de créer une pièce évidemment unique au monde, en céramique, avec une empreinte du vivant. Concrètement, ces ateliers donc, ont lieu dans le milieu des enfants. C'est-à-dire que ça peut être pour une école, un centre social, une maison de l'enfance, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire d'abord. Des bibliothèques aussi, en ce moment, les bibliothèques municipales de la ville de Lyon, là, me sollicitent. Donc ce qui m'intéresse, c'est la nature ordinaire. Puisque un des enjeux pour moi, reprenant tout le travail de Morisot, qui m'influence beaucoup aussi, c'est précisément, non pas de les emmener dans des lieux extraordinaires, mais de chercher à voir que le vivant est partout dès lors qu'on se met à le regarder. Et qu'il est merveilleux, enfin souvent complètement bluffant. Et donc bien souvent, j'ai des équipes qui me disent... Non, non, mais là, en fait, vous pourrez pas, vous n'allez pas trouver grand-chose. Hein. Vous pouvez pas sortir avec les enfants parce qu'il n'y a rien, en fait, ici. Et en fait, il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais rien. Bien sûr qu'on n'est pas dans une situation, la biodiversité est toujours immense, loin s'en faut. Mais c'est pas ma quête, en fait, vraiment. C'est plutôt de partager avec les enfants le fait que là où on sort, et parfois dans les plis du béton, ça pousse, ça vit. Et c'est là où c'est absolument extraordinaire. Donc j'observe, je me promène un peu aux alentours et je trouve des contre-allées, voilà, des petits endroits où, non loin de l'école ou de la structure où je suis, les enfants se rendent et peuvent donc se rendre aussi plus tard. Sans nous, sans moi, dans d'autres contextes. Ces ateliers ne concernent que des enfants en groupe. C'est pour moi capital, c'est une dimension sur laquelle je suis même un peu arc-boutée. Je tiens à défendre vraiment le collectif. Et cela me paraît important parce que ça fait écho pour moi à toute la question de politique dans laquelle nous sommes. Sommés, j'ai envie de dire, d'y aller ensemble, quoi, dans ces défis auxquels il nous faut faire face. Donc, le collectif des enfants en groupe, en général de 8 et de 5 à 10 ans, Laura l'a dit. Les enfants sortent bien sûr les mains vides, puisque loin du Covid, on est plutôt dans l'idée de tout toucher. Hein. Donc, sortent les mains vides, libres, et c'est moi qui tiens le panier avec le matériel. Une séquence intègre un temps où on se rend compte, les images sont pas formidables, mais je vous en donne quelques-unes, un temps où on se rend compte, où on cause, on discute, en fait, et une des premières questions que je leur pose, c'est qu'est-ce qui est vivant? Et c'est pas très clair, en fait. C'est pas très très clair, hein, pour pas mal d'enfants. Est-ce qu'un arbre est vivant? Un petit moment de réflexion, quand même. Donc voilà, on parle de ce qu'on a autour de nous, de ce qui se passe si on, justement, on coupe une plante, et donc on parle des cycles de la vie, des cycles des saisons, et c'est là où justement je commence à poser des éléments sur cette histoire du glanage, et qui n'est pas du pillage, et de la nécessité d'une attention dans ce qu'on va prélever. Puis c'est le moment, donc justement, enfin, je dois oublier des choses, mais on reviendra après. Donc il y a toute une causerie comme ça. Je précise que, bien sûr, il y a plein d'inattendus, c'est-à-dire que moi j'arrive avec mes 2-3 éléments et 2-3 questions, et ensuite je laisse venir. Pour illustration, je vous montre juste, hein, la première fois que j'ai fait une petite intervention comme ça, j'étais avec un groupe de CE1, puis j'étais dans la contre-allée de l'école, et moi par réflexe, ils ont 7 ans, je me mets comme ça, je me mets par terre, en fait, je crois que j'étais à genoux. Et en fait, je me suis retrouvée face à 12 enfants, dont 9 sont restés debout. Il y a 3, dont le mien, qui se sont assis. Et du coup, j'ai attendu, et j'ai dit, bon, on ne s'assoit pas, hein, du coup. Et on dit, ah ben non. Pas. Et alors, ok. Et donc, en fait, tout était là. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, j'ai entendu le fait que, bien sûr, on ne pouvait pas s'asseoir dans l'air parce que c'était sale. On est au mois de mai. Donc, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de boue. On est dans de l'herbe. Il pouvait y avoir des crottes de chien, qui était une observation tout à fait judicieuse, mais je leur ai dit, il s'avère qu'on a. Un truc dingue, c'est qu'on a des yeux. On a des yeux et que donc on va pouvoir s'assurer, je l'ai fait avant, mais vous pouvez vous en assurer par vous-même, que en fait ici c'est possible. Il y avait des filles en jupe, pas le droit de s'asseoir. Et il y avait des nouveaux pantalons. Et donc, Voilà. L'inattendu, c'est que là, il fallait que je fasse avec ça. Donc, du coup, on a engagé toute une discussion là-dessus, sur le sale, qu'est-ce qui est sale, qu'est-ce qui est propre, etc. Et là aussi, hein, c'est loin d'être si évident. Le sale, le propre, pour des enfants de 7 ans, mais même plus tard, c'est loin d'être complètement intégré, quoi. Je crois qu'il y a des évidences qu'on minimise, en fait, enfin, ou qu'on pense incorporer quand elles ne le sont pas. Je ferme la parenthèse. Donc, une fois qu'on a fini cette causerie, qui est donc variable dans le temps, chacun d'entre eux va glaner. Et c'est là où moi, je me retire un peu. J'ai mes petits livres de distinction. Je ne suis pas du tout naturaliste, hein, donc je ne connais pas forcément le nom des plantes, mais je m'évertue de sortir des aplats. C'est pour moi extrêmement important, l'entrée en matière qu'est le langage. Et donc, j'essaye de distinguer avec eux. Et je leur demande, avant de glaner leur trésor, donc j'ai acheté des coffres à trésors évidemment, je leur demande d'essayer de bien s'assurer que ça va répondre à certaines exigences pour une empreinte efficace dans de la terre. Et on essaye de nommer ensemble ce qu'ils prélèvent, ce qu'ils recueillent. Donc 2 à 3 plantes dans son coffre à trésors. Puis c'est le temps de la création. Donc là, plutôt dedans. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'il puisse y avoir de la dialectique entre le dedans et le dehors. C'est le temps de la création dedans, où là, avec l'eau, les enfants commencent à rencontrer cette matière terre. Je précise que je travaille la porcelaine, la matière la plus noble, pour honorer ce que sont les enfants, ce qu'ils vivent là. Et donc, ils ont la possibilité de faire, soit, c'est souvent par ça qu'ils commencent, un tableau, soit un bol au pouce, soit une autre forme qui leur convient, dans laquelle je les invite donc à imprimer leur trésor. Donc faire une empreinte. Et donc, je me mets un peu en retrait, je guette, mais bien sûr, je ne fais jamais à leur place. Je suis à leur service et voilà. Et du coup, techniquement, je peux valider, aider, etc. Mais c'est vraiment eux qui font, qui rencontrent cette expérience. Et puis, donc on le voit, hein, il faut être parfois debout, il faut y aller. Hein, la terre, c'est pas tout mou, en fait, ils découvrent ça. Souvent, ils sont surpris de la nécessité d'avoir à monter sur leur chaise pour rouler, quoi, pour obtenir quelque chose qui soit un peu plat. Et puis ensuite, ils impriment, j'amène aussi des lettres. Ils ont la possibilité donc d'écrire, notamment le nom de la plante, des plantes ou autre chose. On a ensuite un temps de discussion, de causerie, de conscientisation de ce qu'on a vécu. Je pense que c'est important, on se l'a dit beaucoup aussi au cours de ce colloque, de revenir par le langage sur ce qui a été vécu pour justement faire trace. Et puis ensuite, il y a une étape d'attente, c'est-à-dire que les pièces ont à sécher. Donc on ne ramène pas tout de suite, ce qui est perturbant pour beaucoup d'enfants. Parce que c'est joli, mais en fait ce n'est pas possible de le ramener, c'est fragile. Et donc, là, il y a une petite ellipse pour eux, parce qu'évidemment, je ramène dans mon atelier, je cuis, et je ne restitue les pièces que 3 semaines plus tard. Et oui, le temps du séchage, en fait, est long. Il y a une première cuisson, dans le travail de la céramique. Puis, il y a un travail d'oxydation. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop là. Là, vous allez voir mieux. Il y a un travail d'oxydation, c'est-à-dire que j'injecte du jus d'oxyde pour révéler les empreintes. Et j'émaille les pièces. Donc il y a une deuxième cuisson à 1280 degrés en l'occurrence. Et tout ça en fait c'est long et du coup il se passe 3 semaines. Ce qui est pour moi extrêmement important parce que je parlais d'effacement des gestes de base dans l'introduction, je crois qu'il y a aussi un effacement du temps long. Dans ce déracinement dont j'ai pas le temps de parler mais c'est le cas dans le livre. Il y a tout un tas de raisons, parmi lesquelles, je crois, un éloignement d'avec la paysannerie et du coup une privation de l'expérience du temps long. On a des enfants qui aujourd'hui sont sur un rapport au temps très pressurisé, des temps très courts, et sont dans le temps de l'immédiateté, le temps des médias, qui est aussi le temps de l'immédiateté. Et donc, voilà, pour moi, c'est extrêmement important de mettre de la durée, de l'attente dans tout ça. Et puis enfin, on valorise la démarche par une petite exposition, j'essaye de pousser des équipes à le faire en tout cas, à la manière du musée scolaire de Jules Ferry, une façon d'honorer, de célébrer la démarche, et puis aussi d'inviter les parents. Voilà. J'ai rajouté ça parce qu'il n'y a pas que de la production en céramique, on peut aussi éprouver autrement les choses, et notamment en travaillant juste avec la barbotine, sur des aplats noirs pour travailler, éprouver l'impact du geste et ce qui se passe avec tous nos doigts, tous nos poignets, parfois tous nos bras, ce qu'on peut mettre en œuvre entre la matière et nous. Alors, je suis un peu brouillonne, mais je voudrais partager avec vous deux, trois réflexions du coup du moment sur... sur tout ça. Pour moi, il y a quelque chose d'intéressant et dans la manipulation et dans le rapport au temps, j'ai un peu d'en parler. Et donc, je vous livre un peu ça. C'est encore une fois une matière un peu brouillonne, hein, et je m'en excuse, mais Laura m'a convaincue de venir pour partager comme ça. Et bien sûr, je me suis fait avoir. Donc, vous l'aurez compris, pour moi, il s'agit de remettre le faire ensemble et l'importance du geste. Sur la table. Ce que je trouve intéressant ici, et c'est vrai dans tout l'artisanat, mais je vais surtout parler de la céramique, c'est que la terre formule aussi ses exigences. C'est-à-dire qu'elle réclame une certaine disponibilité, une capacité à l'attention, au dialogue. On est obligé de se confronter à sa résistance, nous rappelons que la nature est d'abord une réalité bien charnelle, bien physique, et on est obligé d'être à son écoute. Quel tourneur n'a pas fait l'expérience que le centrage, c'est le premier geste, hein, c'est consiste à mettre sa terre sur sa girelle, sur l'axe tournant, quel tourneur n'a pas fait l'expérience que le centrage n'est pas possible si lui-même n'est pas centré. C'est-à-dire que c'est incroyable, enfin... Moi, pour moi, c'est aussi un baromètre, un miroir. Et je l'ai vu des centaines de fois pour avoir animé beaucoup d'ateliers, donc je le disais, avec des adultes. Si on n'est pas centré à l'intérieur de soi, il est impossible de centrer la terre sur une girelle. Elle est tordue. Ça bouge dans tous les sens. Et donc sa pièce, elle sera pareille. Et donc potentiellement amenée à être cassée au four. Enfin, ne pas tenir au four. Donc, la terre, la matière ici, nous oblige à la maîtrise et à la répétition de certains gestes. Enlever les bulles d'air qui menaceraient la pièce d'exploser au four, respecter certaines épaisseurs, etc. Et tout ça, ça ne vient que dans le temps. Des centaines de fois, il faut répéter ça pour pouvoir l'incorporer. La terre, elle veut bien côtoyer les autres éléments, mais avec une mesure et une diplomatie qui sont propres à elle. C'est-à-dire que s'il y a trop d'eau, on est dans la boue. S'il fait trop chaud, elle fissure. Si on ne la cuit pas à la bonne température, elle éclate, etc. Et lorsqu'on parvient à dialoguer avec elle, lorsqu'on parvient en fait à être suffisamment disponible, c'est d'apaisement et d'un sentiment de reliance, de puissance même, et d'ancrage dont on se sent empli, grandi, gratifié. C'est là où m'apparaît la dimension fascinante du façonnage. C'est-à-dire qu'en modelant, on peut avoir le sentiment d'une certaine manière de se façonner un monde, mais pour autant, je crois que le travail de la terre nous façonne tout autant. Et ça m'apparaît primordial pour sortir d'une approche justement instrumentale, dont je parlais dans l'introduction, une approche ressource, pour sortir de cet héritage de contrôle et de maîtrise de l'homme sur la matière, un mouvement donc unilatéral, un héritage donc bien souvent non conscient, hein, d'une culture postmoderne. Ici, on ne sait pas toujours qui touche le plus l'autre. Et ces gestes donc nourrissent physiquement et intimement le sentiment d'ancrage et d'attachement à un ensemble bien plus vaste que soi, bien plus durable aussi que soi. Ces gestes, tout en nous rendant un peu plus autonomes, révèlent aussi nos dépendances. En tout cas, pour moi, ils participent du fait de révéler la fragilité et l'épaisseur de notre monde. Et, je le disais, et ça m'apparaît capital, d'apprendre à traiter la matière avec égard. Regarder les objets autrement que comme des marchandises. L'artisan, nous dit Matthew Crawford dans son livre formidable qui s'appelle Éloge du carburateur, une référence pour moi, l'artisan est fier de sa création, il la chérit. Tandis que le consommateur met constamment au rebut des objets qui fonctionnent encore parfaitement dans sa quête fébrile du nouveau. Matthew Crawford, ancien philosophe, qui a ouvert un garage de réparation de motocyclettes et qui a donc écrit ce livre, Éloge du carburateur, sur toute la valeur de l'artisanat. Donc tout ça donne de la valeur aux relations que les enfants, je crois, entretiennent avec ce qu'ils ont en main, avec ce qu'ils touchent. Et ça nous permet peut-être d'essayer d'échapper à ce paradoxe d'une société matérialiste qui n'invite en fait que très peu à nous confronter à la matière. C'est là la valeur et la vertu de l'artisanat que nous avons peut-être à retrouver. Cet artisanat-là qui met en œuvre et s'attache à reproduire des savoir-faire, qui met en jeu la main, qui fait de la manipulation un art qui s'apprend, qui donne prise au monde sans emprise. Qui nous permet aussi, je crois, de nous interpeller dans nos actes et leurs effets sur nos milieux. Et là aussi, je cite Crawford, dit « Pour avoir la moindre prise sur le monde, intellectuellement parlant, ne faut-il pas aussi avoir un minimum de capacité d'agir matériellement sur lui ?» La manipulation, donc, et puis le temps. J'avais envie d'échanger un peu avec vous, les deux étant intimement liés. Le manque de temps, nous dit Hartmut Rosa, est le premier fossoyeur de la résonance. Geneviève Pruvot, j'ai cité tout à l'heure, en reprenant les termes d'un historien qui s'appelle Henri Lefebvre, elle a une formule que j'aime beaucoup, elle aussi, qui évoque la même chose, elle évoque la perte du rythme du monde. Comment convoquer alors ce qui est de saison, ce qui ne l'est pas, ce qui est le temps d'une plante, ce que c'est que d'élever et le temps que ça prend. Comment convoquer les perspectives pourtant déjà là d'un climat et de milieux qui se dégradent? Comment rendre tout ça palpable? Eh bien, sans que ça soit la réponse magique, je crois que dans l'artisanat, il y a l'obligation de faire avec le temps parce qu'on ne maîtrise pas les éléments. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On ne choisit pas que la pièce elle soit sèche ou pas, quoi. C'est elle qui nous dit. Pas plus qu'on joue sur le temps de cuisson. Si on réduit un tout petit peu de temps de cuisson, tout éclate. Et puis, dans le travail de la terre, on est obligé de tenir compte des fenêtres d'opportunité. Et ça m'apparaît extrêmement précieux. Ça fait un peu écho aux éicos, justement, je crois. C'est-à-dire qu'il y a des moments qu'il ne faut pas rater. C'est là que ça se passe en fait. C'est là qu'il faut poser une anse, parce que sinon après c'est trop tard. C'est là qu'il faut faire un trou, sinon la pièce on l'éclate. Et donc, les fenêtres d'opportunité, c'est cette capacité à être disponible au présent. Juste là, maintenant. Et donc, à veiller à ce que le temps ne nous échappe pas, à travailler même dans la lenteur autant que possible. La lenteur, nous dit Richard Sennett, ce que c'est la main, c'est le titre de son ouvrage. La lenteur même du temps professionnel est une source de satisfaction. La pratique s'enracine et permet de s'approprier un savoir-faire. La même lenteur permet aussi le travail de réflexion et d'imagination, au contraire de la course aux résultats rapides. La maturation demande du temps. On prend durablement possession d'une compétence. Et c'est parce que je vais m'en remettre justement à un savoir et une expérience qui me viennent du passé que je peux aussi, je crois, éviter un sentiment tout à la fois de toute puissance et puis en même temps de découragement. C'est-à-dire que dans l'artisanat, il y a une instruction empirique dans et par le temps. Dans et par les témoignages de ceux et celles qui nous ont précédés et par l'obligation qu'on a de composer avec la matière, avec son rythme, avec ses exigences. Du coup, l'expérience de la main et a fortiori l'artisanat céramique ont ainsi, je crois, quelque chose à proposer de très adapté aux défis individuels et collectifs que la modernité nous impose de vivre. J'ai beaucoup trop de pages, Laura. Est-ce que tu peux m'indiquer, de combien de temps il nous reste?
5-10 minutes.
Ok.
8 minutes.
D'accord.
7 minutes.
8 minutes. Non, alors ça va être trop court, mais pour ce qui est des éléments, je veux dire, de posture, et si je reprends la casquette de formatrice, d'animatrice et de formatrice, parfois auprès d'animatrice et d'animateurs. On pourra peut-être en parler ensemble, mais c'est vrai que pour moi, derrière ça, il y a des espaces de vigilance qui ont été beaucoup repris, donc ça va être redondant. Parmi eux, le fait de ne pas arriver en sachant, ça c'est vraiment un héritage de l'éducation populaire, de ne pas arriver en tant que sachant, c'est-à-dire de se poser comme passeur, comme veilleur peut-être, et du coup, j'ai envie de dire de s'aligner là où sont les enfants, de s'aligner là où sont aussi parfois les familles ou les professionnels. Pour moi, c'est extrêmement important. On arrive, on ne sait pas. On peut avoir d'expérience, mais on arrive, on ne sait pas. C'est particulièrement vrai pour moi, enfin je fais vraiment attention à ça, parce que dans le champ socioculturel, je suis en plus face à des publics professionnels qui sont peu dotés, en tout cas convaincus qu'ils sont dans des sous-métiers, pas reconnus, très mal payés, etc. Et donc si j'arrive autrement que dans une position comme ça, on ne se rencontre pas. Donc, idem avec les enfants. Moi, je me laisse autant guider que je les guide. Ce qui fait que je suis extrêmement souvent hors cadre horaire. Mais ça, c'est une autre affaire. Voilà, j'ai retenu cette phrase de Yann Le Bossé, ce Québécois, qui a inventé, formalisé l'approche DPA, développement du pouvoir d'agir. On ne fait pas pousser une fleur en tirant dessus, nous dit Yann Le Bossé. Autre élément capital, soigner l'entrée en matière. C'est trop court, mais voilà, j'insiste beaucoup sur l'importance du langage, là aussi, j'en parle un peu dans le livre, et plus ça va, plus je travaille là-dessus. Comment on parle de la nature, du vivant, aux enfants? Comment on crée du plaisir chez eux? Comment aussi on sort des aplats, les arbres, les oiseaux? Comment on redonne du relief à ces paysages? En fait, ils ne les voient plus à force de trop d'aplats. On ne les voit plus, j'ai envie de dire, nous aussi. Nommer, c'est élargir le monde. Donc, mieux nommer, et j'ai envie de dire, quand on parle de tout ça, y mettre de la joie, convoquer du coup chez soi l'enfant qui a envie, quoi. Et ça m'amène à un autre élément de posture qui me paraît important, c'est se positionner de manière juste pour soi, chercher nos propres axes de résonance. Convoquer l'enfant en soi, chercher nos axes de résonance, savoir avec ce qui, pour les enseignants, avec l'effet maître, hein, c'est en pédagogie, on parle de cela, je crois, c'est-à-dire qu'on ne sera jamais aussi entraînant qu'à un endroit où on est animé soi-même. Et donc, ça nécessite d'avoir quand même fait un petit travail sur nos propres empreintes avant. Moi, je commence toutes mes formations comme ça, hein, je vais faire un travail d'empreinte, réflexible, au groupe que j'ai face à moi avec un certain nombre de questions. Ils y vont individuellement, on ne remet pas ça, ils en disent ce qu'ils ont envie d'en dire, ils ne sont pas obligés de partager après. Mais pour qu'eux-mêmes se situent et que déjà, je pose des éléments clés, pour moi en tout cas, de distinction entre la connaissance, le rapport et les représentations. Que chacun soit bien au clair sur son triptyque à lui, là-dessus. Les connaissances, je peux être extrêmement érudit et avoir pas vécu beaucoup, parce que via les livres, etc., etc. Mais le monde depuis une fenêtre ou depuis un écran, certes, est riche, mais c'est pas du tout la même chose que de passer par l'éprouver, hein, par le corps, par les sens. Donc le rapport, c'est plutôt dans ce registre-là que ça se situe, et puis les représentations. Donc, si on a déjà cette matière-là, on gagne beaucoup de temps ensuite pour que chacun puisse se positionner de manière juste et tenir dans la durée sur ce qu'il entame avec les enfants. Donc, ils mettent de la vibration, mettre du plaisir, susciter du désir. Je crois que c'est capital. Pour moi, c'est en tout cas un axe sur lequel je suis très vigilante. Et puis il y en a d'autres, penser le risque le plus en amont possible, on le sait, on n'a pas arrêté de se dire, c'est le frein majeur qui nous retient en tant que professionnel. Et donc du coup, autant qu'on y aille tout de suite, moi je fais directement travailler sur les freins, après ça, quels sont les freins? Où est-ce que, comment tout de suite cette question du risque, de la sécurité, on peut la penser, on peut la regarder un peu autrement, peut-être on peut chercher des interstices qui nous permettent d'y aller quand même, etc., etc. Je rajouterais pour finir, parmi ces points de vigilance que je m'applique et que je partage, arriver avec des objectifs pas trop nombreux, souples et pas très nombreux. D'abord parce qu'on peut être bousculé, parce qu'ensuite c'est la condition pour privilégier ce fameux vécu sur le prévu, dont on parle aussi depuis deux jours, privilégier le vécu sur le prévu. Faire face à l'inattendu, l'accueillir. Les soudures imprévues n'étant pas toujours les moins réussies. Et donc, ça nécessite aussi de défendre un peu, j'ai envie de dire, un autre rapport aux objectifs, aux résultats. Et peut-être même parfois défendre l'improductivité. En tout cas, l'improductivité des temps dehors, sur lesquels on peut revenir, et c'est ce qu'Eric a dit plusieurs fois, on peut revenir ensuite autrement, dedans. Voilà, je m'arrête presque. Ce que je voulais dire en conclusion, c'est que j'ai voulu rendre compte d'une triple expérience en parlant un peu avec vous de cette création avec la Terre, une expérience subjective, puisqu'il s'agit d'un sujet créant une œuvre, une expérience objective, parce qu'il s'agit de produire un objet, quelque chose de matériel qui rend possible la reconnaissance et les enfants s'en emparent avec joie. Une expérience sociale qui nous permet aussi de rejoindre une communauté qui nous précède et de se référer à un métier. Tout ça donne du sens, un sens plein, sans nourrir pour autant de l'affirmation de soi parce que le travail de la main nous oblige à être humbles. Il nourrit le sentiment d'appartenance, le travail bien fait, peu à peu, à force de répétition, à force d'effort. Et c'est ce qui forme l'éthique du faire, pour reprendre ce mot d'Arthur Lockman, qui lui est philosophe charpentier, qui a écrit un livre qui s'appelle « La vie solide », que je vous recommande. Cela rejoint le désir, peut-être un besoin, mais Matthew Crawford parle de désir. Le désir, dit-il, de rendre notre monde intelligible afin de pouvoir nous en sentir responsables. Si je ne fais pas l'expérience, si je ne comprends pas le monde dans lequel je vis, il y a peu de chances que je m'y intéresse. Et encore plus, que je me mobilise à son sujet. Ça rejoint là la dimension donc éco-citoyenne des enjeux, du lien des enfants avec leur milieu. Et, pour citer Lockman, et je m'arrêterai sur cette phrase, c'est à ce titre que la pensée matérielle, et non matérialiste, ça c'est moi qui le rajoute, c'est à ce titre que la pensée matérielle, développée par l'artisanat, constitue une pratique formatrice de l'esprit propre à restaurer un rapport plus actif au monde et à la chose politique. Je vous remercie.
Un très grand merci à Louise. On a, tout en gardant les temps, un grand merci, conservé une vingtaine de minutes pour nos échanges. Avant d'aller dîner tous ensemble. La parole est à la salle. Beaucoup d'inspiration, Cécile.
Alors merci parce que j'ai trouvé que c'était très inspirant pour votre expérience. Donc il y a cette question du temps qui se passe lors des étapes suivantes, mais qui sont faites par vous en fait. Qui sont faites par les enfants. En fait, parce que ma question est sur est-ce qu'ils ont conscience du travail supplémentaire que ça demande et du coup de ces gestes qui font pas, et en prolongement de ça, je vous rejoins totalement sur le fait que avoir cette emprise sur la matière, c'est quelque chose qui manque clairement à l'éducation d'aujourd'hui, qui est plus tout pris. Enfin, très peu pris en compte dans le sens de maîtrise artisanale. Est-ce qu'il y a des possibilités de répétition pour qu'ils montent en compétences et qu'ils aillent plus loin dans les gestes ?
Bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Là, effectivement, ce dont j'ai rendu compte, notamment en image, c'est une première expérience, on va dire, immersive. Mais effectivement, l'enjeu pour moi, et c'est ce que j'essaie de réfléchir là pour la suite avec plusieurs structures lyonnaises, c'est le projet un peu pour l'année prochaine et pour les années qui arrivent, c'est bien sûr d'instituer de la régularité. Et donc, effectivement, un développement, alors une montée en compétences, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, des gestes plus incorporés, j'aurais envie de dire, moi. Oui, oui, absolument. Alors, c'est vrai que ici, là, dans ce que je vous montre, il n'y a pas de tournage. Parce que c'est une autre contrainte, le tour. Je l'ai déjà fait plein de fois, mais me déplacer avec mon tour, arriver, il faut que je me branche. Et ça, c'est extrêmement intéressant, mais pour le coup, c'est un autre cadre. Il faut penser autrement. Par contre, la puissance créative du tournage, quelque chose qui donc tourne et mouille sous ses doigts et bouge à la moindre impulsion, c'est dingue. Enfin, et souvent, ça a des effets incroyables. Enfin, nombre d'enfants ne peuvent même plus parler, quoi. Je les ai sur mes genoux, ou j'ai deux tabourets. Et donc, ça, j'ai appris maintenant à guider, effectivement, pour qu'ils éprouvent ça. Mais, en fait, c'est extrêmement long d'apprendre à tourner. Il faut plusieurs années. C'est comme un instrument de musique. Et donc, du coup, je peux le faire de temps en temps pour qu'ils sentent la puissance et leur donner envie. Pour créer du mouvement, quoi. Notamment avec les enfants ou avec les adultes. Je le fais parfois aussi avec des personnes en situation de handicap. C'est hyper intéressant. Mais ça travaille autre chose. Cela étant, sur table, dans le modelage et le façonnage, bien sûr qu'il y a un espace infini. Et donc, le geste ne peut que s'affiner. Enfin, juste avec le bol au pouce, et on n'a pas le temps, mais... Tout à l'heure, je me suis dit, mais j'aurais dû amener un plein de terre. Juste le bol au pouce, vous pouvez essayer. On prend une boule, déjà faire une boule parfaite, c'est avec ses mains. Faire une boule, nickel. Mais c'est déjà un truc, quoi. Donc, après, une fois qu'on a fait une boule, c'est une technique japonaise du 16e, je crois. Juste avec ses deux pouces, et en jouant d'un quart de tour, comme ça, je vous invite à essayer de faire un bol. On creuse comme ça, et petit à petit, on affine. En faisant des quarts de tour, du coup, son trou va s'élargir et puis on va être amené petit à petit à pincer ses bords. Et ça, par exemple, on peut le faire toute sa vie. Le geste n'est jamais aussi abouti que la fois d'après, quoi.
Il y avait une question, je crois, de Juliette, si tu avais...
Ben moi, je voulais te remercier énormément parce que je trouvais que c'était loin d'être bruyant et que c'était passionnant de suivre tout ce que, cette réflexion. Et je trouve que tu nous as amené sur autre chose aussi, en rappelant l'artisanat, oui, en partie de ce monde, justement, de placer nous, êtres humains, parce que les mains, les idées, les créativités, et ces liens-là, en fait, on pense que la nature, elle a, quelque part, on a tout à apprendre d'elle, l'expérimenter, l'émerveiller, mais ces côtés de façonner avec le travail de terre, moi, je trouve c'est passionnant, et puis ça donne envie, en fait, j'ai aimé quelque chose en moi que j'ai... Vous savez pas que j'ai aimé, tellement envie de toucher la terre, là, je regrette que tu n'as pas amené.
Oui, c'est ça.
Voilà, et vraiment, j'étais accrochée à ce que tu avais à raconter, donc ma question, en fait, c'est que quand est-ce que tu sors ton livre? No pressure.
Est-ce qu'il y a d'autres partages, partages d'expériences? Laure.
Merci beaucoup, oui, c'est super intéressant. Moi, je te rejoins complètement sur le fait qu'il faut partir de là où on est à l'aise et que c'est dans cette... dans cet espace-là qu'il peut y avoir une rencontre avec les enfants, avec les enseignants. Je suis interpellée par ta conclusion sur la question politique. Je me demandais, en fait, tu as aussi dit que tu faisais partie d'associations militantes, donc je me demandais en fait comment tu travaillais cette question politique, parce que là tu la situes au niveau de l'individu et du petit collectif, donc dans la capacité à travers ce qu'on comprend du monde, à pouvoir se sentir responsable du monde. Mais est-ce que tu la travailles autrement avec les équipes que tu suis? Est-ce que il y a un moyen de connecter la transformation personnelle et collective et en petit collectif à des transformations aussi urbaines, institutionnelles? Est-ce que ça peut avoir un effet sur l'école, sur est-ce qu'à partir de ce travail-là, tu peux initier une transformation de l'organisation, de l'institution, de l'école? Évidemment, c'est une question énorme.
On est d'accord. C'est autre chose pour moi. Mais, alors, je vais faire des morceaux de réponse. J'essaye de ne jamais perdre cette question politique de ma vue. Très concrètement, ça se traduit par, je l'ai dit, hein, différents engagements, évidemment aux Graines, Auvergne-Rhône-Alpes et dans des lieux comme ça. Mais ça se traduit aussi par des choix d'intervention. Je me permets de faire la difficile et de refuser un certain nombre de lieux où je trouve qu'on m'inviterait pour des raisons qui ne sont pas celles que j'ai envie de cautionner. Quand ça ressemble trop à du développement personnel, pour le coup, par exemple, bon, certes, est nécessaire, parce que le changement commence par soi, hein, enfin, changement du monde, Gandhi nous l'a appris, c'est pas ma place, enfin, voilà. Et donc, je privilégie un endroit en particulier, j'en ai parlé un petit peu, je privilégie la formation des professionnels de l'animation. Par choix, et pour moi c'est un choix politique, parce que je pense que ils sont dans un angle mort de notre attention quand on pense les acteurs en lien avec les enfants, et pourtant ils occupent une place que je pense extrêmement stratégique, c'est-à-dire qu'ils sont en contact régulier avec les enfants, ils sont en contact avec des groupes d'enfants, ils sont en contact presque avec tous les enfants, puisque en France, trois quarts d'une génération fréquente le périscolaire. C'est là que, en fait, la mixité la plus grande, et la mixité et le nombre sont les plus grands. Et ils les rencontrent sur des temps qui sont relativement peu contraints. Je mets des guillemets quand même, mais parce qu'il n'y a pas la question du programme, etc. Et en plus, souvent dehors. Donc, par exemple, j'ai infiltré la formation initiale des professionnels de l'animation sur Lyon. On m'a laissé gentiment faire, hein. Enfin, j'étais extrêmement accueillie, c'était pas très difficile en vérité, mais voilà, maintenant, depuis septembre par exemple, J'interviens plusieurs temps sur la formation des BGEPS, BPGEPS et DGEPS en visant donc des effets en cascade. Et puis, bon voilà, donc je fais aussi d'analyse de la pratique, j'accompagne certaines structures qui sont déjà engagées dans l'animation dehors et je les vois une fois par trimestre. Enfin, c'est pas d'analyse de la pratique, c'est un peu hybride. Mais voilà, donc c'est des choix. C'est oui, pour moi, c'est des choix politiques là que je fais. C'est pas forcément des choses très visibles, hein. Mais voilà. Et bien sûr, je fais un travail autant que possible auprès de mes élus. Donc, pour le coup, je suis en dialogue avec certaines tutelles, et notamment la ville de Lyon. Voilà. Donc, j'essaye de faire bouger les lignes, j'ai participé à un certain nombre de réunions, on m'invite parfois sur des temps voilà, de cogitation, de concertation, etc. Donc, pour moi, c'est aussi des endroits où je m'oblige à être, vraiment. Voilà. Et après, je pourrais parler d'autres choix, mais voilà, je pense souvent je vise aussi des territoires. Pour ne pas aller que dans les quartiers les plus dotés, qui sont souvent les plus en demande de ce type d'atelier, par exemple. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Après, moi j'aime bien l'idée de questionner nos formes de dépendance, nos subsistances, pour reprendre le mot de Geneviève Pruvot, et nos capacités à, là où nous sommes, par la terre, mais par d'autres activités peut-être aussi, ben justement, interroger nos dépendances et nos autonomies. Voilà. Donc, je m'arrête là, mais je pourrais parler d'autres endroits où j'essaie d'insuffler ça, et notamment dans des lieux qui n'ont rien à voir, des coopératives. À Lyon, par exemple, il y a une grosse coopérative qui s'appelle Alter Conso. Voilà, où je suis administratrice du coup, et où pour moi ça fait partie aussi de la même démarche. Je ne sais pas si je réponds, c'est un peu brouillon.
Merci. Inspirant. Une question de Pascal.
Oui, plus une résonance. Donc oui, pour broder autour de cette entrée par la matière, par les matières, bon là c'est la terre, mais il pourrait y avoir le feu, le bois, quelle éco-formation par les matières. Donc c'était juste pour savoir si vous aviez vous avez pu connaître les travaux d'un de nos collègues, Noël de Noyel. Noël de Noyel.
Qui
a fait sa thèse. Bon, lui, c'est un fils de forgeron, et puis il était mécanicien, et puis il a travaillé avec les maréchaux ferrants.
Ah oui.
Donc là, on est dans l'univers du fer, du métal, la forge, c'est donc un autre imaginaire, d'autres chaînes d'interaction, etc., une autre matière. Et donc, il a beaucoup travaillé, évidemment, avec l'imaginaire matériel de Bachelard.
Ouais.
Et puis voilà, et lui il parle de, je pensais que ça pourrait vous intéresser, de culture matérielle et de culture artisane.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est pas juste un savoir pratique, c'est une culture.
Ouais.
Ah voilà, il part dans les trucs. Et pour lui, du coup, il met éco-formation à ECHO, parce que pour travailler sur les résonances entre le sujet et la matière. Enfin voilà. Et c'est vrai que. Et ça rejoint pour dire cette question, parce qu'on disait nature, les vivants, oui, mais. Alors, à moins qu'on accepte que la terre est vivante, je veux bien, mais souvent quand on dit les vivants, c'est les animaux et les plantes, quoi. Mais on voit bien que là, l'éco-formation, elle est. Dans l'interaction sensorimotrice avec.
Merci beaucoup, Annelise. Encore
merci. Un grand bravo.